Chapitre 47. Ida est agenouillée dans le hall parmi les chaussures et les bottes. Elle se couvre la bouche pour étouffer le bruit de sa respiration. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. La femme est dans la maison. Ida l'a vue heurter la lampe sur pied, faisant vaciller la lumière. Elle doit appeler le 112, mais le téléphone est sur le plan de travail de la cuisine à l'étage. Sa respiration est beaucoup trop rapide. Elle se retourne doucement et regarde vers le salon. Le canapé, la table ronde avec les bougies parfumées, les reflets dans les vitres. Dans la panique, Ida cherche une explication rationnelle à sa présence et se demande si c'est pour ça que Sven Erik a essayé de l'appeler pour lui parler de cette femme qui allait passer. Peut-être est-elle venue lui emprunter quelque chose. Dans ce cas, elle est peut-être déjà sortie par les portes coulissantes. Ida rampe silencieusement sur le lino. Elle sent le courant d'air, quelques graviers et l'humidité de la neige fondue qui se sont immiscés à l'intérieur. Elle a maintenant une meilleure vue sur le salon. Personne. Elle se met debout malgré ses jambes tremblantes. Le parquet du salon craque, comme si quelqu'un se déplaçait lentement. Ida fait un pas, regarde vers la baie vitrée et voit la femme sur la terrasse, près du barbecue. Elle semble avancer vers la rambarde rouillée. Cela signifie qu'elle se dirige vers la porte du garage. Ida n'a que quelques secondes pour récupérer son téléphone. Elle se précipite hors de l'entrée et commence à monter l'escalier aussi silencieusement que possible. Elle regarde entre les marches et étouffe un cri. La femme est là. Elle se tient dans le recoin sombre devant la porte de la chaufferie. Leurs regards se croisent. La femme brandit une hache et fait trois pas rapides vers Ida. Celle-ci a juste le temps de lever un pied avant que la lame tranchante ne s'abatte entre les marches pour venir s'enfoncer dans la rampe. Ida hurle, elle court vers le plan de travail de la cuisine pour attraper son téléphone et renverse son verre. Il se brise sur le carrelage et du vin éclabousse les portes et les plinthes. Les pas lourds de la femme retentissent dans l'escalier. Ida se précipite dans la chambre, verrouille la porte et recule. Ses mains tremblent tellement qu'elle n'arrive pas à composer son code. Ce n'est qu'à la troisième tentative que le téléphone s'allume. Au même moment, la poignée de la porte s'abaisse. Ida compose le 112. Alors que l'opérateur répond, la femme commence à secouer la porte avec violence. « Aidez-moi !» murmure Ida. «
Que se passe-t-il » demande l'opérateur.
« Il y a une folle chez moi » dit-elle entre deux respirations saccadées.
« Que voulez-vous dire par « folle » ?» demande l'opérateur d'une voix patiente.
« Une femme avec une hache est entrée dans ma maison !»
« Quelqu'un est blessé ?»
Ida hurle quand la hache frappe avec force la porte massive. « Que se passe-t-il ? Vous avez besoin d'aide ?» demande l'opérateur. « Venez tout de suite, aussi vite que... »
La lame de la hache s'enfonce dans la porte une deuxième fois.
« Où êtes-vous ? » demande l'opérateur. « Je me suis enfermé dans ma chambre. Quelle est votre adresse ?»
Ida répond et entend une série de petits clics sur le clavier pendant que l'opérateur tape.
« On envoie une voiture maintenant, » dit-il. « Mon Dieu ! »
allait Ida lorsque la hache s'abat de nouveau sur la porte.
« S'il vous plaît, dépêchez-vous »
« Puis-je avoir votre numéro de téléphone au cas où l'appel serait coupé ?»«
J'ai pas le temps, elle casse tout avec sa hache !»
Un bruit sourd retentit, suivi d'un craquement aigu au moment où la lame traverse le bois massif.
« Parlez-moi, êtes-vous seul chez vous ?»« Oui, je suis seul !» crie-t-elle presque. « Savez-vous qui est cette femme ? S'il vous plaît, venez juste ici, je comprends rien !»
Le coup suivant propulse des éclats de bois sur le sol. Ida comprend qu'elle n'a plus le temps. Elle interrompt l'appel et se rue sur l'armoire à linge. D'une main tremblante, elle déplace une pile de serviettes, grimpe sur l'étagère et ferme derrière elle. S'aidant de ses épaules, elle appuie de toutes ses forces contre la grande armoire en bois d'Oliver, mais celle-ci est trop lourde pour être déplacée. Les coups sourds et les craquements continuent.
« Mon Dieu, mon Dieu !»
murmure-t-elle. Elle trouve un appui et pousse avec ses jambes. L'armoire glisse sur le sol sur une dizaine de centimètres. La porte de la chambre explose dans un grand fracas. Ida pousse de toutes ses forces en gémissant et parvient à repousser davantage le meuble massif. Elle a un goût de sang dans la bouche quand elle atterrit sur le tapis de la chambre d'Oliver. Le store oscille dans un courant d'air. Ida se relève en tremblant, réajuste son peignoir et se précipite vers la porte. Elle fait du bruit en marchant accidentellement sur une peluche. Une fenêtre se brise dans sa chambre. Ida ouvre la porte. Pieds nus, elle court silencieusement en direction de la cuisine et descend l'escalier. Arrivée en bas, elle tourne brusquement vers la porte de la chaufferie. La femme la suit à pas lourds. Ida voit ses jambes entre les marches. Sans un bruit, elle ouvre la porte, se faufile dans l'obscurité et referme derrière elle. La pompe à chaleur géothermique, l'alimentation du chauffage au sol et le chauffe-eau ronronnent doucement dans l'espace exigu en émettant de la chaleur. Ida cligne des yeux et respire bruyamment par le nez. Elle tâtonne en direction de la porte du garage. Elle ne distingue pas ses mains. Un tuyau d'alimentation émet un long sifflement. Elle y est presque lorsque son peignoir se coince dans un robinet. Son cœur bat si fort qu'elle l'entend résonner dans ses oreilles. Elle doit reculer pour décrocher le tissu puis franchit l'étroite porte qui mène au garage. La veilleuse au plafond projette sa faible lumière bleue sur tout un bric-à-brac. Des vélos, des pneus d'été, un coffre de toit, une tondeuse à gazon, des sacs de terreau et des boîtes en plastique remplies de décorations de Noël. Le sol en béton brut est glacé sous ses pieds lorsqu'elle s'avance pour actionner le bouton de la porte automatique. Le mécanisme commence à bourdonner, mais après 30 centimètres, la porte émet un cliquetis, s'arrête et redescend. Ida regarde avec angoisse derrière elle, appuie à nouveau sur le bouton et serre nerveusement sa ceinture. La porte monte, se bloque et redescend. Quelque chose entrave le mécanisme. Soudain, la lumière jaillit de la chaufferie et une fine bande claire forme comme une fissure sur le sol en béton. Ida appuie à nouveau sur le bouton. Aussitôt, elle s'allonge sur le dos et commence à se glisser sous la porte. Mais le mécanisme est trop rapide. Le cliquetis retentit pour la troisième fois et la porte redescend. Elle est bloquée, au niveau de la taille. L'air froid de la nuit lui brûle les poumons. Haletante, elle essaie de se dégager en poussant la porte des mains et s'écorche la peau au-dessus du bassin. Puis la pression sur ses hanches diminue. La porte est en train de remonter. Ida se glisse à l'extérieur en gémissant et aperçoit son voisin, un ancien magistrat. Il lui tourne le dos et regarde son vieux labrador renifler un lampadaire. « Au secours !» crie-t-elle. Au même moment, elle sent une main puissante saisir sa cheville. Avec une force inouïe, elle est tirée vers l'intérieur du garage. L'arrière de sa tête heurte le sol en béton et son peignoir remonte. La porte se referme en ronronnant. Elle pleure bruyamment, donne des coups de pied et parvient à se rouler sur le ventre pour se mettre à genoux. Tandis qu'elle commence à se relever, elle reçoit un violent coup dans le milieu du dos. Ses jambes se dérobent. Elle s'effondre sur le sol, tente de se réceptionner avec ses mains, mais son front heurte le béton rugueux. Elle tente une nouvelle fois de se relever, mais elle a totalement perdu le contact avec le bas de son corps. Lorsqu'elle comprend que sa colonne vertébrale a été sectionnée, elle hurle. Une douleur atroce lui déchire le haut du corps et elle est brusquement secouée de spasmes. Son cœur s'emballe. Elle halète. Elle s'entend rugir d'angoisse et se casse les ongles en essayant de se traîner vers l'avant, animée par une volonté animale de vivre. La femme respire bruyamment et repousse brutalement une chaise. Elle tourne autour d'Ida en laissant échapper des râles et la heurte deux fois à la joue avec la tête de sa hache.
« S'il vous plaît !»
implore Ida. Alors qu'elle essaie de ramper vers la chaufferie, la femme lui tranche la moitié de la main droite. Des étincelles jaillissent lorsque la lame de la hache heurte le béton. Ida est sur le point de perdre connaissance, mais son regard reste accroché à l'étincelle qui scintille comme une petite fée aux ailes argentées. Une mare de sang se forme sous elle. Elle sent son corps se détendre, laisse sa joue reposer contre le sol. Les coups de hache qui suivent et le démembrement qui commence ne sont plus que de douces secousses, semblables au mouvement des aiguillages dans le train qui l'a ramené chez son père et sa mère.